J'ai une question pour vous. Connaissez-vous le nombre de solutions contraceptives disponibles en France? Bonjour et bienvenue dans ce podcast du blog 28 jours de la vie d'une femme. Je suis Carole Thiébaut et je vous propose dans ce nouvel épisode un panorama des contraceptions disponibles aujourd'hui. Alors, je vous propose ce panorama aujourd'hui parce que je me suis aperçue en échangeant, que ce soit au niveau personnel, familial ou en cabinet au niveau professionnel, que bon nombre de personnes ne sont pas au courant qu'il existe beaucoup plus que les simples méthodes hormonales qu'on nous propose classiquement. Il m'a paru donc important sur ce blog, en tout cas, de vous proposer ce panel et de vous détailler un petit peu tout ce qui existe. Vous allez être, je pense, assez surpris par le nombre de méthodes existantes. En tout cas, ces méthodes peuvent se classer en différents groupes que je vais citer maintenant. Il y a le groupe des méthodes hormonales, ensuite on peut regrouper certaines méthodes sous l'appellation de méthodes mécaniques ou méthodes dites barrières, je vais détailler un petit peu plus loin. Il y a aussi les méthodes définitives, parce qu'elles sont peu évoquées, mais elles font partie de la solution pour certains hommes ou certaines femmes, certains couples en tout cas. Nous avons également le groupe, alors souvent appelé méthode naturelle, moi je préfère les nommer les méthodes de gestion autonome de la fertilité. Ça me paraît rendre un petit peu hommage, et vous verrez pourquoi, aux personnes qui se lancent dans ces méthodes-là, parce que voilà, c'est du sans filet et il faut être formé, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis on abordera aussi des méthodes qui sont connues depuis très longtemps, mais qui reviennent un peu au goût du jour et qui sont des méthodes masculines, qui parfois, quand on a un article qui passe sur un magazine, prête à sourire, mais elles sont plutôt intéressantes. Alors, commençons par le premier groupe de méthodes, les méthodes hormonales. On y retrouve bien évidemment la pilule contraceptive, donc qui consiste en des comprimés qui contiennent des hormones synthétiques. Et voilà, on a plusieurs types de pilules maintenant. Ça fait plusieurs décennies que la pilule contraceptive a été mise au point et depuis elle a beaucoup beaucoup évolué. On peut trouver des pilules combinées avec à la fois des œstrogènes, à la fois de la progestérone. On trouve aussi des pilules qui ne délivrent qu'une seule type d'hormone. En tout cas, c'est en règle générale la méthode la plus proposée, la plus utilisée encore aujourd'hui en France, bien qu'elle perde un petit peu de vitesse de croisière. Deuxième méthode que l'on rencontre dans les méthodes hormonales, c'est l'implant. Alors l'implant consiste en un petit bâtonnet d'environ 4 cm de long et 2 mm de diamètre. Il contient de la progestérone de synthèse, donc il va bloquer l'ovulation et il est inséré sous la peau du bras par un professionnel de santé, médecin, sage-femme, gynécologue. Voilà, c'est un dispositif spécial, il y a un geste technique à avoir, donc on fait pas ça chez soi, c'est vraiment en cabinet, que ce soit pour le poser ou pour le retirer. Il a une efficacité de 3 ans et peut donc rester en place durant 3 ans, mais on peut le retirer à n'importe quel moment. Vient ensuite le patch, donc qui est le même système que le patch quand on veut arrêter de fumer. Donc on le colle soi-même sur sa peau. Il va délivrer à la fois des œstrogènes et de la progestérone de façon continue pendant une semaine, puisque le patch se remplace toutes les semaines, durant 3 semaines, et on laisse la 4e semaine sans patch, donc sans diffusion hormonale, afin d'avoir des hémorragies de privation et donc un semblant de cycle. Ensuite, on a l'anneau vaginal. Alors, l'anneau vaginal, c'est un petit anneau en silicone, un peu comme, j'allais dire, un onion rings. C'est un anneau qui est souple et qui est lui aussi imprégné d'hormones synthétiques, œstrogènes et progestérone, qui vont diffuser directement en local à travers la paroi vaginale, puisqu'on va le placer comme un tampon hygiénique au niveau du vagin. Donc il y a un blocage de l'ovulation grâce à ces hormones diffusées en local, et on le laisse en place pendant 3 semaines. On le met en place comme un tampon. Là, l'anneau vaginal va rester en place pendant 3 semaines. Au début de la 4e semaine, on enlève l'anneau et on laisse cette semaine libre de d'hormones synthétiques, afin de provoquer les hémorragies de privation qui donnent un semblant de cycle. Après l'anneau vaginal, nous pouvons parler du dispositif intra-utérin hormonal. Il en existe qui ne sont pas imprégnés d'hormones, mais puisqu'on est dans la catégorie des méthodes hormonales, je parle de celui-ci tout de suite. Donc c'est un petit dispositif médical en forme de T, vraiment vraiment tout petit, hein, quelques millimètres, quelques centimètres. Il est inséré forcément par un médecin ou une sage-femme, parce que là aussi il y a un geste technique, et surtout il est inséré directement dans l'utérus. Donc là, il y a à la fois l'action mécanique qu'on va voir tout à l'heure quand on parlera des méthodes mécaniques, des méthodes barrières, mais qui est couplée avec une diffusion locale d'hormones et qui reste en place pendant 3 ans à peu près. Donc dans ces méthodes hormonales, on retrouve, pour résumer, la pilule, l'implant, le patch, l'anneau vaginal et le stérilet hormonal. La deuxième catégorie de contraception, de méthode de contraception que je voulais aborder avec vous maintenant, ce sont les méthodes dites barrières ou méthodes mécaniques. Alors, on a commencé à en parler, le dispositif intra-utérin, ce petit dispositif en forme de T qui est forcément introduit dans l'utérus par un médecin ou une sage-femme. Il peut ne pas être imprégné d'hormones. Il est fabriqué en cuivre et ce cuivre va avoir un effet spermicide, en fait. Donc il va contribuer à abréger la vie intra-utérine des spermatozoïdes qui peuvent arriver. Et il va aussi, du fait de sa présence dans l'utérus, provoquer une inflammation locale qui rend la paroi utérine impropre à l'anidation. Même s'il y a formation d'un œuf, cet œuf aura très peu de chances de nider, c'est-à-dire de se fixer dans l'utérus et de pouvoir démarrer son développement, et donc pour la femme de démarrer une grossesse. Après le dispositif intra-utérin, on a le préservatif, qui est une méthode barrière, puisqu'il va empêcher les spermatozoïdes d'arriver dans la cavité utérine. Donc on a une sorte de barrière, hein, c'est une barrière en plastique, je ne vais pas vous faire de dessin sur le préservatif. Alors on en a deux, on a le préservatif masculin qui est le plus connu, le plus utilisé, le plus vendu en tout cas, et le préservatif féminin qui est de taille bien plus importante, se place dans le vagin, jusqu'au fond du vagin, grâce à un petit anneau semi-rigide qu'on peut introduire pour guider ce préservatif féminin, et qui doit dépasser de la vulve pour vraiment assurer la sécurité contraceptive prévue par cette méthode. Viennent ensuite, alors je les mets un petit peu ensemble, mais viennent ensuite la cape cervicale, le diaphragme, et leur ami, le spermicide. Mais parlons déjà de la cape cervicale et du diaphragme. En fait, c'est une sorte de petite coupole, en silicone que l'on va placer tout au fond du vagin, au niveau du col de l'utérus. Et là aussi, c'est une méthode barrière, puisque on va essayer d'empêcher de façon mécanique, avec cette barrière en silicone, le passage des spermatozoïdes vers l'utérus, et donc vers les trompes, empêcher la rencontre entre un ovule et des spermatozoïdes. La cape cervicale, c'est un petit peu la version moderne du diaphragme. Alors le diaphragme, il y a plusieurs tailles, donc il est nécessaire d'aller chez le médecin, chez la sage-femme ou chez le gynécologue pour qu'elle puisse mesurer ou qu'il puisse mesurer la taille qui va correspondre à votre morphologie. Ensuite, il faut se rendre en pharmacie, récupérer son dispositif, diaphragme, et puis on retourne chez son professionnel de santé qui va cette fois, durant cette consultation, vous apprendre à bien positionner le diaphragme. La cape cervicale, c'est un petit peu la version moderne, puisque maintenant il existe une taille unique. Il y a en plus une forme qui est beaucoup plus pratique pour le retirer une fois qu'on a besoin de le retirer. Alors ça se pose bien sûr avant l'intimité amoureuse, et surtout on ne l'enlève pas tout de suite après l'intimité amoureuse. Il faut laisser le temps aux spermatozoïdes de mourir. Et de ne plus avoir ce risque d'avoir des spermatozoïdes qui passent en retirant le dispositif. Donc souvent le diaphragme ou la cape cervicale sont couplés avec du spermicide. Alors il y a des gens qui utilisent du spermicide seul, et puis souvent on a quand même ce couplage entre spermicide et cape cervicale ou diaphragme, pour justement essayer de compenser ce risque-là de passage quand même de certains spermatozoïdes, surtout si on l'enlève trop tôt. Donc, cape cervicale et diaphragme, on attend au moins 6 heures avant de l'enlever, 6 heures après l'intimité amoureuse, avant d'enlever le dispositif. Et lorsque l'on couple la cape cervicale et ou le diaphragme avec le spermicide étant ayant une durée d'efficacité assez limitée dans le temps, eh bien il va falloir poser le diaphragme ou la cape avec le spermicide moins d'une heure avant l'intimité amoureuse, pour garder l'efficacité du spermicide. Nous en avons fini avec cette deuxième catégorie des catégories de contraception mécanique ou barrière. Donc le dispositif intra-utérin au cuivre sans hormones, préservatif masculin et féminin, et cape cervicale diaphragme associé ou non au spermicide. On peut utiliser le spermicide seul. Ensuite, il est important d'évoquer aussi les contraceptions dites définitives. Donc, cela regroupe chez l'homme la vasectomie. On va ligaturer les canaux de passage des spermatozoïdes pour que le sperme soit sans spermatozoïdes, en fait. Donc forcément, pas de risque de grossesse avec des intimités amoureuses dans ce cadre-là. Et chez la femme, on parlait avant de ligature des trompes, donc de la même façon, on allait ligaturer les trompes pour que l'ovule ne puisse pas passer et ne pas progresser vers l'utérus une fois qu'il a été libéré par l'ovaire, et de la même façon de l'autre côté, qu'il n'y ait pas de spermatozoïdes qui passent vers l'ovule. Donc ça pourrait être une méthode barrière, mais on la classe quand même en méthode définitive, puisque il faut une intervention chirurgicale. C'est une démarche mûrement réfléchie, une intervention chirurgicale, tout comme pour la nouvelle méthode Essure. Alors nouvelle, elle a quelques années encore, elle est très controversée, qui consiste ou consistait à introduire une sorte de petit ressort à l'intérieur même de la trompe pour boucher la trompe ensuite de manière physiologique. Nous avons ensuite les méthodes que j'appelle les méthodes de gestion autonome de la fertilité. Ces méthodes consistent à connaître le cycle féminin, le cycle menstruel féminin, donc connaître les périodes de fertilité durant ce cycle et d'observer les signes de fertilité durant ce cycle. Alors, on a une grande méthode qui est assez connue, c'est la méthode Billings, qui va se contenter d'observer les sécrétions du col de l'utérus qui s'appelle la glaire cervicale, qui change d'aspect et de consistance en fonction du moment du cycle dans lequel on se trouve et qui du coup, en fonction de cette consistance et de cette apparence, et même de sa présence ou de sa non-présence ou de son absence, d'indiquer si on est en période fertile ou infertile. Ensuite, on a les méthodes symptothermiques. Donc la méthode symptothermique ou le sans-implant. Les deux méthodes sont à peu près identiques, il y a quelques subtilités, mais qui ne changent pas le fond de la démarche. Vont être basées sur une connaissance parfaite du cycle menstruel féminin, une connaissance parfaite des signes de ce cycle et une reconnaissance des périodes fertiles et des périodes infertiles du cycle, permettant au couple ensuite d'adapter ses intimités amoureuses, ses temps de rapprochement amoureux, afin de gérer leur fertilité en fonction de leur désir ou non d'enfant. Et puis pour finir, je voudrais parler des méthodes masculines qui sont connues depuis fort longtemps, mais qui, comme je vous l'annonçais, ont un petit renouveau, en tout cas dans le milieu. Donc ces méthodes sont le slip chauffant et l'anneau contraceptif. Alors à ne pas confondre avec l'anneau vaginal dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. En tout cas c'est le même style de dispositif, c'est un anneau en silicone, mais il va pas servir de la même façon. En tout cas on peut pas prendre l'un et l'autre pour faire l'une ou l'autre des méthodes. Que ce soit l'anneau contraceptif masculin ou le slip chauffant, le principe est le même, c'est un principe de remontée testiculaire qui va réchauffer justement ces testicules et la chaleur empêche la spermatogénèse, c'est-à-dire que la fabrication des spermatozoïdes va être empêchée. Alors ce sont des méthodes qui ne sont pas à effet immédiat et qui demandent de pratiquer des spermogrammes réguliers pour vérifier l'efficacité de la méthode. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de la fameuse méthode Ogino, qui est surtout connue de nos mères ou nos grands-mères. On parle de bébé Ogino, simplement parce que il ne s'agit pas d'une méthode de contraception du tout. Quand on regarde un peu dans les détails, on voit bien que c'est la meilleure façon d'avoir un enfant, en fait. Je n'ai pas parlé non plus de la fameuse méthode du retrait, tout simplement parce que là non plus, j'estime qu'il ne s'agit pas d'une méthode de contraception, c'est plutôt très très risqué. Et en parlant de risque, il existe un critère d'efficacité, donc l'efficacité contraceptive des méthodes est évaluée, en tout cas elle existe, l'OMS en a fait un tableau et qui nous donne un taux d'efficacité théorique et pratique, parce que en fonction des méthodes, il y a des méthodes qui vont avoir un taux d'efficacité en théorie, mais on s'aperçoit que dans la pratique des couples, eh bien ce taux d'efficacité n'est pas le même, souvent moins bon. J'ai envie de reparler de l'efficacité dans un prochain podcast ou un prochain article du blog, en tout cas, parce que je voudrais le coupler avec les critères de choix d'une contraception. Donc aujourd'hui, c'était plutôt un panorama de ce qui existe. Et voilà, j'ai dans l'idée de poursuivre un petit peu cette présentation avec des critères de choix qui peuvent vous aider à choisir une contraception de façon autonome. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était aujourd'hui mon premier podcast. J'espère avoir été claire. Je vais certainement m'améliorer, en tout cas c'est le but. Eh bien, il me reste à vous demander ou à vous inciter de me laisser vos impressions sur les commentaires en bas de l'article du podcast. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.